soir, je vous invite à aller avec moi dans l'Ancien Testament. Vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles dans le livre de Juges, des Juges au chapitre 13. Je vais donc commencer à vous parler de cet homme, Samson. Parler de Samson, ce n'est pas simplement parler de l'histoire de Samson. Si je dis histoire de Samson, c'est parce que des fois nous réduisons Samson à une histoire à raconter aux petits garçons. Ou alors nous réduisons Samson à une espèce de vieux film hollywoodien. Mais Samson est bien plus que tout cela. Samson est un homme appelé de Dieu. C'est un juge, un libérateur. Et qu'on le veuille ou non, c'est aussi une figure messianique. Et par sa vie et son ministère, il nous enseigne beaucoup concernant le Messie à venir, Jésus. Il est un homme qui nous apporte un enseignement, et pas forcément celui que nous attendons. Car nous le verrons, ce qui définit le mieux la vie et le ministère de Samson, ce n'est pas forcément le mot puissance, mais c'est avant tout le mot consécration. Et donc pendant quelques semaines, le mardi soir, une fois par mois, nous avancerons sur ce thème de la vie de Samson. Ce soir, je voudrais introduire cette série et puis parler ensuite sur le contexte et la vocation même de Samson. Alors, si nous devons parler de Samson, bien sûr, en premier lieu, nous dirons que Samson est un homme hors du commun. Il n'y a pas eu d'autre comme lui. Et aujourd'hui, on pourrait dire, mais quelle équipe de rugby ne voudrait pas avoir un homme comme Samson dans son pack? Même un Sébastien Chabal avec toute la chevelure qu'il a ne résisterait pas une seule seconde face à une charge de Samson. Et Samson est donc un homme unique. Jamais homme n'a été aussi fort que lui. Il a déchiré un lion à main nue comme un agneau. Il a tué 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. Il a arraché et transporté les portes massives de la ville de Gaza jusque sur le sommet d'une montagne. Il a brisé les liens les plus solides, rien ne pouvait le retenir. Au point que certains parmi les modernes ne voient en lui qu'une espèce de personnage mythologique calqué sur Hercule. Ou alors un espèce de super-héros des comics modernes. Mais Samson est un homme qui a existé en chair et en os, un homme qui a été doté par Dieu d'une force extraordinaire. Mais à notre tour, nous commettrions une erreur. Je le disais, si nous voyons qu'en Samson, l'espèce de monsieur muscle de la Bible. Car Samson est avant tout un homme marqué par une consécration. Une consécration liée à une naissance exceptionnelle. La naissance de Samson a été annoncée par un ange. Une vie qui a été mise à part dès le sein maternel, en vue d'un naziréat permanent, d'une consécration à Dieu pour la vie. Mais quand on parle de Samson, nous devons nous rappeler que par quatre fois, il est mentionné la présence de l'Esprit de Dieu sur sa vie. Quatre fois, c'est plus que le nombre mentionné pour tous les autres juges réunis. Dans tous les cas, Samson a donc été un homme unique. Pourtant, notre admiration le concernant laisse rapidement place à une tristesse et à des critiques. Lui qu'on appelle libérateur, malheureusement, se révéla au bout du compte incapable de délivrer le peuple de l'oppression des Philistins. Il échoua là où d'autres, moins dotés que lui, avaient réussi. Par contre, et pareillement sur le plan personnel, Samson termina misérablement, les yeux crevés, livré aux travaux forcés, exposé comme une bête de cirque. Nous voyons donc tout de suite que Samson est comme l'homme de tous les contrastes. Le plus fort des juges devint le plus faible. Le plus béni d'entre tous devint le plus misérable. Le plus consacré finit par s'épancher sur les genoux d'une femme misérable. Samson nous intrigue aussi, admettons-le, par ses gestes et par ses paroles. Pourquoi défier les amis de sa noce par une énigme? Pourquoi aussi attacher queue par queue 300 renards et les lâcher dans un champ? Pourquoi aussi arracher les portes de Gaza et les transporter jusque sur le sommet d'une montagne? Ces actions nous paraissent parfois sans sens. Pourtant, avec Samson, il y a du sens. Mais il nous faut réfléchir sur sa vie. Il nous faut dépasser l'espèce de première apparence de héroïque, d'œuvre extraordinaire pour aller chercher l'enseignement spirituel qu'il y a dans la vie de cet homme. Samson était un homme d'une intelligence réelle. Il suffit de se rappeler la manière dont il va exposer l'énigme et dont il va gérer l'énigme lors de son mariage, presque comme une partie d'échec. Samson est aussi un homme remarquable dans la Bible. N'oublions pas, au cas où nous en douterions, qu'il est cité parmi les héros de la foi, vérifiez Hébreux 11, 32. C'est un héros de la foi. Chez Samson, réfléchissez, vous ne trouvez aucun égoïsme. Vous ne trouvez aucun appât du gain. Mais un sens profond du ministère et une spiritualité réelle. Alors c'est vrai, Samson a échoué. Il a échoué sur les genoux de Delila, et là il a sombré dans la défaite. Son péché est là, il a perdu sa force, l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui, et depuis les critiques n'ont cessé de pleuvoir sur lui. Mais sont-elles toutes justifiées? Et nous verrons qu'au bout du compte, Samson reste un des héros de la Bible les moins bien compris. Et nous l'avons certainement trop accablé, oubliant tout l'enseignement qu'il a à nous donner. Alors, je vous propose de survoler, tout en essayant de nous arrêter un peu plus, sur la vie de Samson, et nous ferons ça en quatre fois, Dieu voulant. Ce soir, nous attarderons donc plus particulièrement sur le chapitre 13, sans rentrer dans tous les détails, mais surtout pour parler du contexte de la naissance de Samson et de sa vocation. Ensuite, nous parlerons juge 14 sur le mariage de Samson, juge 15 les exploits de Samson, et enfin, dans un quatrième message, juge 16 la chute de Samson. Donc ce soir, je vous propose une lecture, je vous l'ai dit, dans juge, chapitre 13, versets 1 à 5. Ce sont les premiers versets qui nous introduisent quant à la vie de cet homme et nous donnent déjà un aperçu de ce que sera la vie de cet homme. Juge 13, verset 1er. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoac. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit : Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Et tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Amen. Tout d'abord, évoquons le contexte dans lequel s'inscrit la naissance de Samson et particulièrement la situation d'Israël, parce qu'il y a un lien étroit entre la situation d'Israël à cette époque et la naissance et le ministère de Samson. La situation d'Israël n'a rien de reluisant. Israël a abandonné l'alliance conclue avec l'Éternel, et comme le dit le texte, Israël fait ce qui déplaît à Dieu. Autrement dit, Israël s'est abandonné une fois de plus au culte des idoles. Et maintenant, à ce moment-là, Israël vit sous le jugement divin. Mais un jugement divin très particulier, avec deux particularités. Tout d'abord, sa longueur. Dieu a livré Israël à l'oppression des Philistins depuis 40 ans, soit deux fois le temps de l'oppression d'Israël du temps de Déborah. Ce qui est frappant dans ce texte, surtout si vous connaissez le reste du livre des juges, c'est l'absence de repentir de la part du peuple. Le peuple vit dans le péché, il vit sous le jugement de Dieu, Il subit l'oppression des Philistins, mais il ne se repent pas. Dans d'autres endroits, à d'autres moments, Israël s'était repenti. Je vous renvoie à Juges 6. Et après qu'un prophète eût été envoyé par le Seigneur pour rappeler Israël de la part de Dieu, le peuple s'est repenti. Et Dieu a suscité ensuite un juge, il s'appelait Gédéon. Mais à l'époque de Samson, le peuple vit dans l'oppression, mais aucun repentir. Pourquoi ? Peut-être parce que nous sommes déjà dans une époque tardive du temps des juges. Une époque où la corruption et l'idolâtrie ont atteint un stade très avancé parmi le peuple. Un état de dégradation qui précède directement l'époque du grand prêtre Élie et de ses deux fils Ophni et Phiné. Et c'est la fin du temps des juges, juste avant Samuel, dans un temps vraiment de chute et de dégradation spirituelle profonde dans ce pays. À l'époque de Gédéon, de Samson, c'est les Philistins qui dominent Israël. La domination des Philistins est tout à fait particulière. Je mentionnais Gédéon. Du temps de Gédéon, c'était les Madianites, peuple du désert, qui opprimaient Israël. Que faisaient les Madianites ? Ils attendaient le temps des moissons pour monter en Israël, ravager Israël et laisser Israël sans nourriture. Les Philistins ont agi différemment. Eux, tellement sûrs de leur force, se contentaient en quelque sorte d'une cohabitation plus ou moins paisible et par contre certainement imposée avec Israël. Par exemple, les Philistins ne s'opposaient pas à des mariages interethniques. Samson nous en donne un exemple. Pourvu que les Israélites et les autres peuples se soumettent à leurs coutumes. Et ce que nous voyons, c'est qu'Israël a accepté cette domination. Un exemple que nous verrons, c'est que les Judéens vont accepter de livrer Samson aux Philistins. Pourvu qu'ils gardent la paix et la tranquillité. Autrement dit, Israël vit dans une situation de compromis. Une compromission préférable à la guerre, pourvu qu'on maintienne une vie paisible. Mais spirituellement parlant, Israël est comme moribond. Aux yeux de Dieu, Israël est mort. Voyez-vous, la situation d'Israël à l'époque de Samson n'est pas sans nous rappeler la situation présente de l'Église. Car nous aussi, nous sommes dans un temps avancé. Et le Seigneur nous prévient que dans les derniers temps, c'est vrai, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et aujourd'hui, beaucoup d'églises vivent dans une espèce de cohabitation arrangée avec le monde. Il y a bien des pays, certes, où les épreuves, les tribulations que connaissent l'Église sont semblables à celles d'Israël au temps de Gédéon et des Madianites. Mais pour notre pays, il faut plutôt reconnaître que nous vivons à côté de ce monde comme Israël vivait à côté des Philistins. Un monde qui nous tolère. Un monde qui nous accepte tant que nous restons à notre place. Un monde qui est prêt à nous intégrer pour peu que nous acceptions quelques-uns de ses principes. Et de notre côté, que voyons-nous ? Une Église malheureusement de moins en moins réactive, malgré la durée de l'oppression. Et nous préférons appeler ça une cohabitation intelligente. Et malheureusement, nous devons le reconnaître aussi, une Église sans force pour redresser la situation. Dans les deux cas, au temps d'Israël et des Philistins comme aujourd'hui, il est temps que Dieu intervienne d'une manière radicale, pour redonner vie à son peuple. Voilà le contexte de Samson qui nous parle aussi de notre temps à nous. Je voudrais maintenant en venir à la vocation et au ministère de Samson. Tout d'abord, il est bon de considérer qu'il nous faut lever une méprise. Nous regardons trop au ministère de Samson sous le seul aspect de la force. Entre guillemets, une force solitaire, parce que Samson est seul. Il est toujours seul et il demeure seul. Alors, il est vrai que les occasions pour manifester cette force n'ont pas manqué. Pour Pourtant, l'essentiel n'est peut-être pas là. Car soyons clairs, les victoires remportées par Samson sur les Philistins, que ce soit à Ramath-Léhi où il va tuer plus de 1000 Philistins, ou que ce soit dans le temple de Dagon lorsqu'il pousse les colonnes et que tout s'effondre, aucune de ces victoires n'est suffisante pour renverser la puissance des Philistins. Et donc l'impact de Samson n'est pas forcément à chercher de ce côté-ci, du côté des victoires qu'il a remportées. D'ailleurs, il nous faut nous rappeler cette parole que nous lisons au verset 5 de la part du Seigneur, c'est l'ange qui le dit à la maman de Samson. Il lui dit, non pas ce sera lui qui délivrera, mais il dit à la maman, ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Il va commencer cette œuvre que d'autres achèveront, en l'occurrence Samuel, Saül et David. Mais à ce moment-là, quelque chose était encore plus important aux yeux de Dieu que la délivrance des Philistins, c'était la délivrance d'Israël par rapport à son absence de repentance, par rapport à son péché. Israël était un peuple d'idolâtres et Dieu voulait réveiller la conscience des Israélites. Et c'est ce qu'il va faire à travers le ministère de Samson. Il veut créer un espèce de choc, ou tout du moins créer un éveil. Il leur donne un homme d'une dimension complètement différente, un homme extraordinaire, pour essayer de provoquer quelque chose en eux, de les amener à réfléchir. Comment est-ce qu'il va procéder? Comment Dieu a-t-il procédé à travers Samson? Certes, par ses victoires. Les victoires de Samson, les actions héroïques de Samson sont autant de signes visant à comme secouer le joug des Philistins et à amener les Israélites à réfléchir. Mais la vie de Samson est une suite aussi de leçons de choses. Quand Samson épouse une Philistine, et j'ai lu des commentaires mais qui sont... On a du mal parce que c'est tellement évident mais on est complètement à côté de la plaque quand trop de commentaires disent... Samson a épousé une étrangère, c'était pas bien. Mais c'est oublié que c'est l'Esprit du Seigneur qui l'a conduit à le faire. Parce que Dieu avait enseigné quelque chose. Et ça me rappelle quoi? Ça me rappelle le prophète Osée, qui a épousé une prostituée, Gomère. Parce que Dieu voulait enseigner quelque chose au peuple. C'est la même chose avec Samson. Dieu veut enseigner au peuple quoi? Eh bien, il veut montrer les dangers d'une mauvaise alliance, cette alliance qui unissait Israël aux Philistins. Et beaucoup de choses sont comme ça dans la vie de Samson. D'ailleurs, savez-vous ce que veut dire Samson? Ça veut dire petit soleil. Et Samson a commencé à éclairer Israël quant à sa situation. Mais je vous l'ai dit, le ministère de Samson n'est pas simplement un ministère de puissance et d'action héroïque, c'est avant tout un ministère marqué par la consécration, une consécration unique. Je dirais presque aucun autre homme, que Samson n'a été consacré comme lui. Rappelons-nous les conditions de la naissance de Samson. Samson est né d'une mère stérile. Je note qu'on ne connaît pas le nom de sa maman. Lorsque Dieu prend une femme stérile pour engendrer une nouvelle vie, il veut montrer que face à la stérilité engendrée par le péché, seule une nouvelle création peut sauver. Notons aussi que l'engendrement par une femme stérile apparaît chaque fois que Dieu veut marquer les temps. Et là, ça mériterait vraiment un message tout entier. Quelles sont les femmes stériles de la parole? Sarah, qui donne naissance à Isaac, le fils de la promesse. Rebecca, qui sera exaucée au bout de 20 ans. Anne, la maman de Samuel, le prophète destiné à un des deux premiers rois d'Israël. Et Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste, qui va annoncer et désigner le Messie. On peut dire que Samson se retrouve en belle compagnie, n'est-ce pas? Les hommes que nous venons de mentionner ont marqué les temps d'Israël. Et Samson est aussi un homme qui a marqué le temps d'Israël. Mais que représente Samson? Samson, c'est... Oui, je vais le dire comme ça, c'est le nouvel homme. Samson, c'est un peu l'incarnation de cet homme que Paul appelle le Fils de Dieu. Vous savez, dans Romains 8, 19, il dit que la création attend la révélation des fils de Dieu. Et Samson, c'est l'incarnation de ces fils de Dieu. Il est un géant non engendré par une semence démoniaque comme dans Genèse 6, mais il est un géant engendré par la puissance du Saint-Esprit. Samson, c'est le type prophétique, annonciateur de ce que sera le nouvel homme. Non pas, vous le comprenez, par ses muscles, mais par la puissance du Saint-Esprit. Le nouvel homme par la consécration permanente qui sera la sienne à l'égard du Seigneur. Le nouvel homme par la mission qui est la sienne d'accomplir une œuvre de délivrance en faveur des hommes. Autrement dit, Samson, plus que tout autre homme, excusez-moi, j'arrive pas à le dire ce soir, est porteur de toutes les promesses, tant sur le plan physique. C'est un homme parfaitement accompli physiquement, qu'intellectuellement, nous l'avons dit, que spirituellement, c'est un homme au-dessus de tous les standards. C'est un homme unique. Et Dieu a choisi un tel homme, Dieu a préparé un tel homme, parce que là où les hommes traditionnels ont échoué, Dieu entreprend quelque chose de radicalement différent. Mais ne cherchons pas le super-héros. Mais si nous regardons à nous aujourd'hui, comprenons ce que Dieu a préparé, ce que Dieu nous annonce en Samson, c'est l'homme spirituel. L'homme rempli du Saint-Esprit. L'homme revêtu de la puissance de Dieu. Samson est une image de l'homme nouveau en Jésus-Christ. Et la première caractéristique de Samson, ce n'est pas la force. Tout comme la première caractéristique de l'homme nouveau, ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit, mais c'est la sainteté, c'est la consécration. Par trois fois dans le chapitre 13, dans le récit de la naissance de Samson, il est question de la consécration, de la mise à part, de la séparation pour Dieu de Samson, alors qu'une seule fois il est question de sa force. La question de la consécration est fondamentale, la force vient en second. La consécration conduit à la force, la sainteté conduit à la puissance. Alors cela nous amène à parler directement des prescriptions tout à fait particulières que l'ange adressa à Manoah et à son épouse, des prescriptions relatives à un naziréat permanent. Donc nous avons parlé il y a quelques semaines de ça, de ce qu'est le naziréat, une consécration au Seigneur pour un temps donné. Sauf que pour Samson, c'est une consécration permanente pour toute sa vie, qui se manifeste à travers trois éléments. Premièrement, l'interdiction de consommer le fruit de la vigne. Deuxièmement, interdiction de se couper les cheveux. Troisièmement, interdiction de s'approcher d'une personne morte. J'ai trouvé ce commentaire très intéressant. Ces trois prescriptions se rapportent au corps. Le vin fait référence à ce qui entre dans le corps. Les cheveux fait référence à ce qui sort du corps. Les morts fait référence à ce qui touche le corps. Alors bien sûr, nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance, mais nous savons que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et nous sommes dans un naziréat permanent consacré à Dieu. Et nous prenons soin de notre corps. Quant à ce qui entre dans notre corps, encore plus quant à ce qui sort de notre corps, Jésus nous l'a dit, mais aussi quant à ce qui rentre en contact avec notre corps. Là, nous parlons d'une manière spirituelle. Il n'y a pas d'interdiction alimentaire, d'interdiction de tout ce que vous voulez, d'habillement ou quoi, mais il n'empêche que notre corps est saint et que notre corps a été racheté au prix, au grand prix du sang de Jésus-Christ. Notons que Samson va briser ces trois prescriptions. On y viendra au fur et à mesure. Où est-ce qu'il a tué le lion ? Dans les vignes de Timna. Samson, que faisais-tu au milieu des vignes ? Comment se vengea-t-il de ce que les gens de la noce aient découvert l'énigme par sa femme en tuant 30 hommes ? D'où récupéra-t-il le miel ? Qui donna matière à son énigme, des entrailles du lion qu'il avait tué. Avec quoi Tu as-t-il 1000 hommes parmi les Philistins ? Avec la mâchoire toute fraîche d'un âne mort. » Ce qui est étonnant, c'est qu'alors que toutes ces choses nous semblent contraires aux prescriptions que Dieu lui a accordées, mais nous le verrons, à chaque fois que Samson semble briser une de ses prescriptions, il est dit « L'Esprit du Seigneur est avec lui ». Et ça sera vraiment, je dis, c'est un personnage très très intéressant. Samson fut un juge, c'était son ministère, un libérateur. Et à ce titre, il est aussi une figure messianique. La vie de Samson porte une dimension messianique. Je vais vous en donner quelques exemples. Nous verrons combien il y a des points de ressemblance, des points qui annoncent Jésus-Christ. Sa consécration et son appel, dès avant la conception, nous rappellent la conception miraculeuse de Jean-Baptiste ou de Jésus. L'annonce de l'ange de l'Éternel à la mère de Samson nous rappelle quoi ? Ce que nous appelons la visitation. L'annonce par Gabriel à Marie de la naissance de Jésus. La force prodigieuse de Samson exercée à l'encontre des Philistins trouve un parallèle dans le pouvoir de Jésus de chasser les démons. La trahison de la tribu de Judas qui livre Samson aux Philistins rappelle le péché des chefs juifs qui ont livré Jésus aux Romains. De même, la passivité de Samson lorsque ses frères le lient pour le livrer aux Philistins nous rappelle que Jésus est l'agneau muet qui a été conduit à la boucherie. Son sacrifice ultime dans le temple de Dagon, qui lui apporta la plus grande victoire, n'est pas sans évoquer aussi le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ à la croix. Samson a vécu en solitaire sans être compris par ses frères, tout comme Jésus lui-même fut abandonné par ses proches. Oh, bien sûr, Samson n'est pas le Messie. Et sa vie ne peut être parfaite puisque tous les hommes ont péché à l'exception de Jésus. Samson a fini par pécher alors que Jésus a vécu sans péché. Samson a fini par perdre sa force alors que Jésus l'a gardé jusqu'au bout tout en renonçant à l'utiliser. Il aurait pu appeler les légions d'anges, il ne l'a pas fait. Mais tout cela n'est pas ne doit pas nous faire oublier les points de convergence entre Samson et le Messie à venir. Alors nous comprenons que Samson est un personnage tout à fait particulier. Et le dessein de Dieu à l'égard de Samson est des plus surprenants. Mais son exemple mérite beaucoup plus que ce vieux film qui passe de temps en temps à la télévision. Que quelques histoires que l'on raconte aux enfants. Samson trouve toute sa place dans la galerie des héros de la foi et il continue de nous enseigner. J'ai fait ce rapprochement et je n'hésite pas à le reprendre pour dire que Samson annonce l'homme nouveau en Jésus, un homme consacré d'une manière permanente au Seigneur. Dès que nous naissons de nouveau, nous sommes appelés à vivre pour Dieu. Notre corps tout entier devient le temple du Saint-Esprit, avec la promesse par-dessus d'un revêtement de puissance. Et n'oublions pas que la force qui accompagnait Samson, c'était la puissance du Saint-Esprit qui repose sur nos vies. Quant à toutes les ambiguïtés, les échecs de Samson, ne sont-ils pas là pour nous rappeler certains de nos errements ? D'une manière un peu plus précise, les errements de Samson ne sont pas sans nous rappeler les égarements de certains hommes de Dieu puissamment équipés par le Saint-Esprit, qui ont accompli les uns comme les autres des exploits extraordinaires, mais qui malheureusement se sont aventurés sur des chemins qui ont débouché trop souvent sur des scandales. Et nous avons été étonnés. Et nous ne comprenons pas, mais l'Esprit du Seigneur était avec eux. Et le peuple du Seigneur est parfois très attristé. Et ça, l'exemple de Samson nous enseigne aussi sur ça. Alors peut-être commencerez-vous à regarder Samson d'une manière différente. À ne pas le regarder comme une espèce de personnage mythologique, héroïque, mais à le regarder comme un homme de la même nature que nous. Un homme qui nous parle de notre propre vocation, de notre propre ministère. Une annonce de ce que nous sommes aujourd'hui en Jésus-Christ et de ce que nous serons encore plus lorsque notre Seigneur reviendra. Amen. Inclinons nos fronts si vous voulez bien. Seigneur, l'histoire de Samson, c'est plus qu'une histoire. C'est la parole de Dieu. Seigneur, cet homme n'est pas simplement une espèce de super-héros, mais il est avant tout un homme consacré pour sa vie à ton saint nom. Mais c'est aussi un homme avec une mission, avec une puissance. Un homme que tu as choisi, que tu as préparé pour des circonstances particulières. Seigneur, ces circonstances nous rappellent notre propre temps. Et dans notre époque, Seigneur, où malheureusement tant de corruption nous entoure, je dirais que nous n'avons pas besoin d'un super-héros, Seigneur. Mais nous avons besoin d'hommes et de femmes spirituels. À l'image de Samson, des hommes consacrés d'une manière permanente à Jésus-Christ. Des hommes qui marchent dans la sainteté, mais des hommes et des femmes revêtus de puissance pour accomplir leur mission. Seigneur, tu as conduit Samson d'une manière qui nous laisse parfois perplexes. Mais c'est vrai qu'il est dit que concernant l'esprit, nous ne savons pas d'où il vient ni où il va, il en est pareil de l'homme spirituel. Et devant cela, Seigneur, nous voulons rester humbles. Et il ne nous appartient pas de juger Samson, mais de regarder en lui un exemple aussi. Père, amène-nous à comprendre, à travers Samson, ce que représente cette dimension d'être un fils ou une fille de Dieu. Car Seigneur, Samson n'est pas un homme inaccessible, mais il est une image de ce que nous sommes en toi. Tu fais de nous des Samsons. Seigneur, merci de nous enseigner à travers l'histoire de cet homme. Merci de nous fortifier dans notre engagement. Merci Seigneur, mon Dieu, encore pour ta parole qui nous instruit à chaque instant. Amen.